BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins de ce monde qui est en train de se bâtir devant nous, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos chaque vendredi et nos NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles. Ils répondent à l'appel de BFM Business une nouvelle fois. Thibaut Boutrou et Claire Balva. Claire Balva, VP stratégie de Block, qui vient tout juste d'ailleurs de Block d'être agréé, ça on en parlera. Et puis Thibaut Boutrou qui nous accompagne aussi pour Meria, bien sûr, chaque semaine. Un autre PSAN qui est à nos côtés chaque vendredi. Thibaut, welcome également. Dans un instant, je vous annoncerai les headlines, les titres qui ont fait l'actualité cette semaine, les principales actualités. Et il y en a eu encore pas mal. À l'instant où l'on se parle, le Bitcoin est toujours un peu sous les 100 000, 97 000 dollars. Nous sommes vendredi après-midi, 15h06 en direct. Vous nous suivez peut-être en replay ou sur notre chaîne YouTube en différé, notre chaîne YouTube BFM Crypto. Vincent Gann est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume.
Analyste technique indépendant. Vincent, donc 97 000 dollars le Bitcoin aujourd'hui. Cette difficulté quand même, alors tout est relatif, hein, ça fait que quelques jours, mais cette petite difficulté à franchir le seuil des 100 000 dollars représente-t-elle un risque? Est-ce qu'elle montre les limites potentielles du bullrun en cours d'après vous?
Oui, alors déjà vous avez bien fait Guillaume de rappeler que nous sommes en bullrun, cette phase qui a démarré début novembre, avec le dépassement de l'ancien record historique. Alors pour répondre à votre question, plusieurs observations. Premier point, oui, même en bull run, il y a des corrections, plus précisément des retracements. Alors parfois, ils sont amples, mais ils construisent la tendance haussière. Là, le marché a corrigé de 9 à 10%. Il a fait son aller-retour 100 000, 90 000, il remonte en direction des 100 000. Bref, au prix actuel, Bitcoin gagne 35% en novembre. C'est à peu de choses près, c'est la moyenne de ce qu'il gagne au mois de novembre depuis 2010. Maintenant, deuxième point pour vous répondre, l'enseignement des cycles passés, 2012, 2016, 2020. Toutes les corrections court terme en bull run, même de 20-30%, sont des opportunités d'achat. Donc clairement, moi, je m'inquiète pas ce que fait Bitcoin depuis quelques séances. Et un troisième point qui me semble important, depuis une semaine, ce qu'on observe, c'est un recul de la dominance du Bitcoin. Ça, c'est très sain parce que ça montre qu'il y a un début de passage de témoin à l'environnement des altcoins qui surperforme. Donc, la correction de Bitcoin depuis lundi, elle est archi saine et finalement, elle est peu profonde.
Et donc, pour vous, ce bullrun n'est pas menacé du tout. Quel est votre scénario technique du coup à court terme et pour fin décembre, par exemple, Vincent?
Alors, cette consolidation sous les 100 000 dollars, vous allez voir qu'elle ne va pas durer très longtemps. Toutes les incursions entre 85 et 95, ça se paye. Et moi, ma conviction forte, vous savez le bien, cher Guillaume, c'est que le marché dépasse les 100 000 dollars au plus tard mi-décembre.
Ah oui, avant mi-décembre. Bon, ben, rendez-vous est pris. On vous retrouvera d'ailleurs. On vous retrouve tous les 15 jours. Donc, on arrivera à peu près sur cette échéance, effectivement, de mi-décembre. Merci beaucoup. Vincent Gann, régulièrement à nos côtés. Alors, on va parcourir donc l'ensemble des actus qui ont fait cette semaine crypto. Et on se demandera quand même sur le Bitcoin qui bat record sur record, quelle est son utilité collective. On répondra à un auditeur, en fait, qui semble encore assez dubitatif sur Bitcoin. Ben, on lui répondra. Il nous a interpellé cette semaine. Quelle utilité collective pour Bitcoin? C'est à suivre dans un instant. On parlera aussi d'Alliance, qui, de son côté, semble avoir une utilité aux cryptos, puisqu'Alliance fait un pari sur MicroStrategy. On vous expliquera MicroStrategy, qui détient les plus grosses réserves privées de Bitcoin au monde. Et puis les États-Unis, justement, les derniers développements. Où en est-on? Des grandes promesses de Donald Trump, qui n'est pas encore arrivé à la Maison-Blanche. Mais voilà, on a une nouvelle nomination cette semaine, et notamment celle très importante du futur secrétaire au Trésor. Quel rapport ce secrétaire au Trésor a-t-il aux cryptos? Nos pros des cryptos répondront. C'est votre machine à concentrer l'essentiel. Et cette machine, elle s'enclenche. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec cette semaine, donc, Claire Balva pour De Block. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Et Thibaut Boutrou pour Meria. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
On peut mettre tout de suite les pieds dans le plat?
Allons-y. Parti,
on y va. Alors, on met les pieds dans le plat. À quoi servent les cryptos? L'Europe a besoin d'apprendre à peut-être redevenir une puissance. Elle veut toujours être la plus vertueuse. L'Europe, en vrai, ce qui lui manque, c'est la volonté de puissance aujourd'hui. Une remarque, donc, nous a envoyé cet auditeur. Il s'appelle Alex. Alors, il nous a envoyé sa remarque sur le Félix BFM Bourse, mais elle est valable et surtout, elle vous concerne, vous, les pros des cryptos. Voilà son message. Je vous le dis tel quel, hein, et vous répondrez. Alors que la guerre frappe à nos portes, nous dit Alex, que le pays et nos entreprises ont besoin de retrouver de l'élan, on a besoin que l'argent serve à financer nos besoins concrets, en tant que nation, en tant que continent, face aux périls, face aux menaces extérieures, géopolitiques et tout simplement face aux défis technologiques. Le problème des cryptos, dit cet auditeur, c'est qu'elles éloignent l'argent de tout ce qui justement permettrait de financer tout cela. J'investis en bourse, nous dit-il, je finance des entreprises. J'investis en private equity, pareil, j'investis et je finance des entreprises. J'investis en assurance vie, je finance l'État. En crypto, nous dit Alex, qu'est-ce que j'apporte à la collectivité finalement? C'est la question et le message qu'il nous a envoyé cette semaine. On était curieux de savoir comment vous répondriez à cette question. Thibault.
Ouais, c'est une grande question. Il y a même presque plusieurs questions dans la question et ça mériterait développement. Je pense que dans ce qui a été dit au tout début de la question, il y a presque que la réponse. C'est-à-dire, l'Europe a besoin de redevenir une puissance. Aujourd'hui, elle a perdu de sa superbe, notamment parce que, en termes de souveraineté, on est dépendant de nombreuses autres puissances et, naturellement, sur le domaine technologique, c'est peut-être l'un des sujets sur lesquels on est le plus dépendant, parce qu'à un moment donné, quand il fallait investir dans les nouvelles technologies, on l'a peut-être pas fait, ou en tout cas pas assez, et on se repose la même question aujourd'hui avec des nouvelles vagues de révolutions technologiques qui arrivent, donc la blockchain en est une, les cryptos en sont une également, l'intelligence artificielle en est une, et on voit déjà aujourd'hui que dans d'autres zones géographiques, on accélère sur ces sujets. On en parle beaucoup en ce moment des États-Unis, on voit les BRICS qui sont aussi en train de se poser beaucoup de questions sur la blockchain et sur les cryptos, pour s'émanciper du dollar, pour gagner aussi en autonomie, et justement dans le contexte dans lequel on est, bah, c'est peut-être pas déconnant de retrouver de l'autonomie à travers ces nouvelles technologies, donc voilà, la question, je la poserai plutôt dans l'autre sens, c'est à côté de quoi on passe si on décide de ne pas investir dans ces technologies-là.
Oui, je suis investisseur, je suis investi en bourse ou dans le private equity, je finance directement des entreprises. Je finance qui si je mets de l'argent en Bitcoin, concrètement ?
On finance un protocole, on finance une industrie. En fait, ce qui est étonnant, c'est que dans cette question, il dit il y a plein de périls géopolitiques, par exemple, mais il n'en déduit pas que les cryptos sont justement là comme une sorte de système alternatif en cas de péril politique, économique. En fait, les cryptos, c'est justement l'adaptation face aux dangers qui existent dans ce monde. Et il y a plein de gens qui achètent, alors notamment du Bitcoin, mais pas que, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ne croient plus dans la résilience des États, parce qu'ils ne croient plus dans une grande stabilité économique. Et donc, ils se rabattent sur Bitcoin parce qu'ils se disent l'économie centralisée telle qu'on la connaît et nos systèmes politiques risquent de s'effondrer.
Ouais. Le Bitcoin est un repli, du coup, plus qu'un investissement dans les besoins collectifs, le Bitcoin est un repli individualiste ou pas ?
Alors, il y a des gens qui le voient comme un repli individualiste, bien sûr. Ils achètent du Bitcoin parce qu'ils ne croient plus dans les systèmes qui existent aujourd'hui. Maintenant, si vous demandez à MicroStrategy ou à d'autres investisseurs institutionnels, je suis pas sûr qu'eux achètent effectivement ce qu'ils considèrent être un repli. Ils achètent un investissement comme ils investiraient dans des actions.
Oui, et derrière Bitcoin, la crypto, il y a une blockchain également. Et vous le disiez, des projets derrière que Bitcoin participe à bâtir.
Oui, tout à fait, exactement. Il y a plein de projets qui servent plein de causes différentes, qui sont parfois des entreprises, parfois totalement, parfois décentralisées. Donc après, il faut aussi choisir ces causes. Et la réalité, c'est que derrière, à quoi je sers collectivement, si individuellement, on s'affaiblit ou en tout cas, on n'est pas fort, ce sera très compliqué aussi d'être fort en tant que pays et en tant que continent. Donc il y a aussi ce sujet-là. Et si les gens ne s'emparent pas de cette révolution et que d'autres le font ailleurs, naturellement, ça va à terme enrichir le pays de manière plus globale, créer de l'emploi, créer de la croissance, etc.
Alors, est-il décorrélant le Bitcoin ? C'est une autre question qu'on nous pose parfois. Cette semaine, on a vu les cours de Bitcoin un petit peu corrigés. On n'a pas encore franchi à cette heure-ci les 100 000, mais enfin, on y est presque, avec peut-être une Fed amenée à moins baisser ses taux. Est-ce qu'il est complètement 100% décorrélé le Bitcoin par rapport au monde classique et au système traditionnel, même par rapport aux banques centrales, Claire ?
Non, Bitcoin n'est clairement plus dans un bunker comme il pouvait l'être dans les premières années de son existence. Et c'est notamment du fait de l'arrivée des investisseurs institutionnels qui ont un comportement vis-à-vis de Bitcoin qui est le même que leur comportement vis-à-vis de tous les autres actifs risqués. Et donc selon les mouvements par exemple des taux d'intérêt directeurs, selon les primes de risque à terme, selon plein d'indicateurs en fait macroéconomiques, ces investisseurs vont ajuster les montants qu'ils vont mettre dans les actifs risqués et donc dans Bitcoin. Donc très clairement, pour répondre à votre question, Guillaume, non, Bitcoin n'est pas décorrélé des liquidités globales qui existent sur les marchés. Il est de plus en plus corrélé. Ça ne veut pas dire qu'il se comporte exactement de la même manière que la bourse ou que les métaux précieux.
Oui, il est diversifiant. Il reste un actif de diversification dans les allocations. Et c'est comme ça d'ailleurs que ceux qui sont des professionnels de l'investissement conçoivent le Bitcoin. Diversification, toujours très très utile de diversifier. On parlera des États-Unis bien sûr dans un instant, mais juste avant, il s'est passé quelque chose d'intéressant cette semaine. C'est pas très loin de chez nous, au Maroc. Je savais pas que le Maroc considérait les cryptos comme quelque chose d'illégal. Ben si, et en fait finalement le Maroc va peut-être s'y ouvrir aux cryptos puisqu'un projet de loi prévoit de les légaliser, Claire.
Oui, ça fait plusieurs années en fait qu'on en parle beaucoup au Maroc, et cette question elle me rappelle une banque marocaine avec laquelle j'avais travaillé il y a quelques années et qui justement me disait déjà à l'époque que le régulateur marocain réfléchissait à un cadre réglementaire sur les cryptos. Alors pourquoi ? Parce que certes c'était illégal, mais en fait il constatait qu'il y avait quand même plein de gens qui s'échangeaient des cryptos, qui les achetaient au marché noir, qui avaient des portefeuilles en self-custody, qui avaient des groupes Facebook pour s'échanger de la crypto, et même les banques elles-mêmes constataient qu'il y avait des flux bancaires entre individus qu'elles suspectaient d'être liés à des échanges crypto. Maintenant, toute la question, c'est quel cadre réglementaire ? Alors, le Maroc voit bien que l'Europe arrive avec MiCA, qu'il va y avoir un cadre réglementaire aussi aux États-Unis. Donc, ils vont sans doute s'inspirer de ces cadres réglementaires-là. Et ce qu'on anticipe, c'est que les grandes banques marocaines vont servir aussi de nouveaux intermédiaires pour potentiellement acheter de la crypto au Maroc.
Alors, on continue ici dans les pros des cryptos d'anticiper l'avenir. Et attendez juste une seconde, notre réalisateur Chris. Chris, en régie, veut également réagir. Chris ?
Oui. Bon, il serait intéressant de parler des États-Unis cette semaine.
Oui.
Donald Trump a surpris en nommant un secrétaire au Trésor très, très modéré. Est-ce une mauvaise nouvelle pour Bitcoin ? Que pouvez-vous dire, les pros, de lui et de sa position sur les cryptos ?
Ah, effectivement, secrétaire au Trésor qui a été nommé cette semaine est un modéré, très, très modéré, comme vient de le dire Chris. Il a quel rapport aux cryptos ? Est-ce que cette nomination ne va pas contre l'idée qu'on aurait une administration ultra pro-crypto ?
Déjà, on peut saluer la prononciation de Chris sur Bitcoin qui progresse au fil des émissions.
On était sur Bitcoin il y a 3 semaines et là, Chris est toujours avec nous. Hein. Chris, comment tu prononces ? Vas-y, refais-le nous.
Bitcoin.
Pas mal.
On avance. Pour revenir donc sur le sujet, Scott Bessent qui est effectivement plus modéré, mais globalement les marchés financiers ont plutôt bien réagi, il est plutôt respecté, reconnu sur son domaine, donc c'est pas un choix qui est non plus surprenant, et ça amène aussi un petit peu de justement un petit peu d'équilibre dans tout ça. Sur le sujet crypto, on n'a pas réellement sa position. Alors il s'est déjà exprimé sur le sujet, mais c'est à coup de déclarations assez courtes, donc on sait qu'il s'est dit plusieurs fois enthousiasme à une adoption, qu'il estime que voilà, derrière Bitcoin il y a des valeurs qui ressemblent à celles du Parti républicain, donc a priori il est plutôt favorable. Ouais. Il y a un angle aussi qui est intéressant qu'il aborde, c'est que il a dit que les cryptos intéressaient les jeunes et permettaient aux jeunes de rentrer sur les marchés financiers, et que ça c'était une bonne chose. Donc lui il l'aborde vraiment sous une autre manière qui voit beaucoup plus long terme. Donc ça je trouve que c'est un angle intéressant. Après voilà, à voir comment il se positionne sur du beaucoup plus long terme, mais ça va être aussi bien d'avoir quelqu'un qui met un peu plus de nuances et qui est pas forcément un pro crypto avancé, même si on connaît pas exactement non plus sa position, autant il est très convaincu.
Oui, plutôt pas mal de voir cette nomination d'un secrétaire au Trésor très modéré hein, sur le plan macroéconomique, pas du tout opposé aux cryptos, vous nous disiez, il est plutôt enthousiaste à leur adoption, mais c'est pas non plus un super pro-crypto. Exactement. Comme Elon Musk, et c'est plutôt pas si mal en quelque sorte. C'est comme ça que vous voyez aussi, Claire ?
Oui, complètement. Alors, il y a beaucoup de fantasmes sur les nominations qui seraient faites par Donald Trump, parce que tout le monde s'attend à avoir des aficionados de la crypto à des postes clés. Je pense que ça va être un peu plus nuancé que ça dans la réalité.
Bon, et Chris, t'interviens quand tu veux, bien sûr, chaque semaine, c'est ta libre antenne, hein, ici dans les pros des cryptos. Alors, je me dis quand même qu'il y a un alignement des planètes exceptionnel pour les cryptos. Donald Trump, ses choix, ses promesses, son entourage, Elon Musk. Ce genre d'alignement des planètes ne se représenterait pas, se représentera peut-être pas chaque année. Enfin, c'est quand même très exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Le Bitcoin en a profité et progresse bien. Pour autant, Bitcoin n'est toujours pas, toujours pas à 100 000 dollars. C'est l'objet de notre question crypto qui claque cette semaine. Chaque semaine, effectivement, on pose cette question un peu gênante à nos experts. Claire et Thibault, êtes-vous prêts ?
On est prêts.
Prêt.
Voici la question crypto qui claque cette semaine. Le Bitcoin a quasiment 100 000 dollars. Sa difficulté à franchir les 100 000 montre-t-elle les limites potentielles du bullrun ? Alors qu'on a un super alignement des planètes quand même. Il ne parvient pas pour l'instant, ce vendredi après-midi, à franchir les 100 000 dollars. Est-ce un signe d'une limite du bullrun ? Oui ou non ? Je vous laisse un instant de réflexion. Vous tous, vous pouvez participer, bien sûr, sur notre fil X BFM Crypto. Et laissez-nous également vos arguments en commentaire. Claire, difficulté à passer les 100 000 dollars, est-ce que c'est un mauvais signe pour le bullrun ?
Non.
Non. Thibaut ?
Non.
Oh, ils sont d'accord tous les deux. Je vous trouve bien sûr de vous l'un et l'autre. 100 000 quand même, on les a effleurés l'autre jour, il y a à peu près une semaine, à quelques centaines de dollars près, et paf, on a échoué quoi, on a failli les toucher, puis finalement non, ils se sont dérobés. Vous dites, c'est pas un mauvais signe Thibaut ?
Moi je dis qu'on est, plutôt de dire on n'est pas encore à 100 000, on est déjà aussi proche des 100 000 en réalité, hein. Faut pas oublier qu'il y a un mois ou deux, on était autour de 70. Si en début d'année on avait demandé aux acteurs crypto Bon, vous signez pour vous rapprocher des 100 000, je pense que tout le monde aurait signé le papier. Donc non, c'est pas du tout inquiétant. Il prendra le temps qu'il prendra pour les passer. Mm-hmm. Vincent Gann nous a dit que c'était bientôt, donc il faut pas être inquiet.
Oui, et il nous disait tout à l'heure, Vincent, c'était au tout début des pros des cryptos, que c'était même plutôt un bon signe de voir le Bitcoin latéraliser avant peut-être de repartir de plus belle par la suite. C'est sa vision, en tout cas technique, qui ne constitue pas une prévision. Attention, on n'engage personne à... Voilà, mais c'est un regard toujours intéressant. Pour vous, le fait qu'on n'arrive pas pour l'instant à franchir les 100 000 dollars, c'est presque un bon signe, Claire, ou pas?
C'est plutôt un bon signe, parce que si on franchit ce genre de cap trop vite, derrière, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi toujours des corrections. Faut se rappeler quand même qu'il y a 2-3 semaines, quand on avait passé les 90 000 dollars, tout le monde était complètement euphorique. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, et là on est à 97 000 dollars, et on sent que tout le monde s'impatiente en se disant quand même, c'est pas normal qu'on soit pas déjà à 100 000. Bon, faut aussi apprendre à être patient, à modérer ses attentes, et voilà, se rappeler que tout ne fait pas que monter tout le temps et que c'est normal.
Oui, il y a une loi qui s'appelle, c'est Guillaume Dard qui aime bien en parler régulièrement sur cette antenne, la loi de Gartner, à savoir quand il y a une disruption technologique, on voudrait que tout de suite avoir tous les résultats de la disruption. Oui. Mais non, ça se fait petit à petit, hein, il faut du temps. Il y a peut-être des doutes aussi sur la faisabilité d'un certain nombre de promesses de Donald Trump ou pas. Par exemple, cette fameuse réserve stratégique américaine. Alors, on se demande encore à quoi ça va ressembler, quel sera son montant, son ampleur. Là-dessus, Claire, le Brésil fera peut-être office de laboratoire de ce que préparent les États-Unis. Une proposition de loi propose de doter le Brésil d'une réserve nationale de Bitcoin.
Oui, alors pour l'instant, c'est une proposition de loi. Donc, on est encore assez loin d'une véritable loi et d'une réserve stratégique. Mais ça montre que les États-Unis influencent aussi les autres pays. Et que le fait que Donald Trump ait fait cette promesse-là va sans doute inciter un certain nombre de parlementaires dans d'autres pays à faire ce type de proposition de loi. Le Brésil, c'est un écosystème extrêmement dynamique dans la crypto. On a vu un rapport de Chainalysis qui le plaçait désormais même avant l'Argentine en termes de dynamisme de son écosystème. C'est un pays qui réfléchit aussi à sa dédollarisation, c'est-à-dire à trouver des systèmes de paiement alternatifs avec d'autres pays pour éviter d'utiliser trop le dollar américain. Et donc le Bitcoin peut paraître une alternative intéressante, en tout cas une diversification de ces réserves nationales pour éviter de trop dépendre d'autres actifs.
Alors, on va voir si le Brésil en prend le chemin. La Corée du Sud, elle a choisi de ne pas emprunter ce chemin d'une réserve stratégique en Bitcoin, à l'inverse, Thibault.
Ouais, c'est un petit peu la question à 1 million de dollars en ce moment. J'ai l'impression qu'on est en train de faire le tour de tous les gouvernements pour savoir s'ils vont mettre du Bitcoin dans leur réserve ou pas. Naturellement, si on pose la question aujourd'hui, la plupart vous répondront que non, parce que c'est pas non plus une décision qui se prend en une après-midi dans une salle de réunion, sachant que c'est une décision sur laquelle il y a le fond et la forme. Le fond, c'est un impact qui va être plutôt mesuré sur le long terme, et la forme, c'est l'impact direct, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un État prend cette décision, il s'expose aussi politiquement. C'est quand même une décision qui est lourde de sens, qui a des conséquences aussi idéologiques. Il va être tout de suite très regardé. Donc, c'est le fait que ce soit les États-Unis aussi et que ça parte un petit peu par le haut, forcément, ça incite aussi d'autres États à regarder, à considérer le sujet plutôt que d'avoir une réponse qui est ferme. Donc, on peut s'attendre, à mon avis, à voir des propositions dans beaucoup d'autres gouvernements. Après, c'est pas demain que ça va se mettre en place.
Oui, oui. On va voir comment tout ça nourrit effectivement aussi les cours des cryptos. Alors, on va regarder vos réponses. Est-ce que le fait que Bitcoin peine à franchir les 100 000 dollars est un signe plutôt négatif ou pas sur la puissance du bull run, la puissance à venir encore pour la suite de ce bull run? Vous êtes une immense majorité. Plus de 80% pensaient que non. Le fait que le Bitcoin pour l'instant peine à franchir les 100 000, vous êtes une immense majorité à estimer que c'est pas du tout un souci et que ça ne remet pas en cause le potentiel à venir encore pour la suite éventuelle du bull run, et vous n'êtes que 19% en revanche à vous inquiéter du fait que Bitcoin peine à franchir les 100 000 dollars. Ça dépendra aussi de la régulation, parce que là on parle de cette réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis, et puis il y a cette question de la régulation aussi à venir, et de savoir qui sera le shérif des cryptos aux États-Unis. La SEC, qui était jusqu'ici le gendarme aussi des cryptos, pourrait ne plus l'être. On entend dire, Claire, que la SEC pourrait être écartée au profit d'une autre agence.
Oui, c'est tout le débat qui a lieu aux États-Unis depuis des années, c'est de savoir quelle agence doit réguler les cryptos. La SEC, c'est le gendarme boursier, donc s'ils régulent les cryptos, ils vont globalement plutôt essayer d'en faire des titres financiers. Et la CFTC aurait plutôt tendance à réguler les cryptos comme des marchandises. Alors la CFTC, c'est une plus petite agence, hein, qui est grosso modo 2 ou 3 fois plus petite que la SEC. Et surtout, la réglementation des marchandises, elle est beaucoup plus souple, beaucoup moins contraignante que celle des titres financiers. Donc dire que la CFTC va être le shérif des cryptos, c'est globalement envoyer un signal favorable au secteur en disant il va y avoir une réglementation, mais elle va être beaucoup moins lourde que celle sur les titres financiers.
Les pros des cryptos, l'actualité crypto, le tour du monde des cryptos chaque semaine en 25 minutes. Ouais. tour de la planète crypto, plus vite qu'un avion supersonique. C'est les pros des cryptos chaque vendredi. Et les cryptos qui cherchent à gagner en respectabilité, surtout à devenir incontournables. Chaque semaine nous apporte un signe supplémentaire d'institutionnalisation de cet écosystème. Elle n'est pas encore aboutie, cette institutionnalisation, mais le chemin est désormais bien tracé. Cette semaine, on en a d'ailleurs parlé tout au long de nos émissions sur BFM Business, Allianz, cette semaine, Allianz, grand assureur européen, a fait un pari significatif sur MicroStrategy, un assureur qui mise sur une boîte addict au Bitcoin, pour schématiser un peu les choses, je vous l'accorde, Claire. C'est un signe fort si Allianz, effectivement, choisit de participer à une levée de fonds, en tout cas, c'est quoi? C'est des obligations, c'est ça qu'Allianz...
C'est ça, c'est des obligations de MicroStrategy. Alors, il y a des informations contradictoires, mais ils ont quand même investi à un montant... voilà, c'est entre centaines de millions d'euros, donc c'est quand même un montant très important. Ce qui me fascine, c'est que là, depuis le début de cette émission, on ne parle que de Bitcoin. Et donc c'est vraiment un concours là pour savoir quel gouvernement, quel État, quel acteur privé, quelle institution va de nouveau investir dans Bitcoin. Et donc Allianz, qui est le plus gros assureur en Allemagne, a décidé d'investir dans MicroStrategy. Mais MicroStrategy, c'est une sorte d'intermédiaire. C'est un peu comme s'ils investissaient dans Bitcoin. Mais en achetant des obligations de MicroStrategy, c'est peut-être plus facile d'un point de vue technique, d'un point de vue comptable. Ah oui. C'est plus acceptable aussi pour eux que d'acheter très directement du Bitcoin.
Intéressant, hein. Effectivement, Allianz qui, met des centaines de millions sur MicroStrategy. Bon, l'actualité de la semaine, elle est aussi judiciaire. Tiens, cette actualité judiciaire, elle nous apporte aussi... l'occasion de faire de la pédagogie. On aime bien ça. On découvre chaque semaine un pan supplémentaire de cet écosystème. Et certains d'entre vous connaissent peut-être, d'autres pas encore, et vont découvrir les mineurs de crypto. Tornado Cash en est l'un des plus connus. C'est l'un des totems parmi les mixeurs de crypto. Et il vient de remporter, Tornado Cash, cette semaine, une grande victoire. La justice américaine donne en effet, Thibaut, raison à un collectif d'utilisateurs de Tornado Cash. On va expliquer, mais ça sert à quoi un mixeur de crypto? De quoi on parle précisément à travers Tornado Cash?
Ouais. Alors pour faire simple, un mixeur de crypto-monnaie, c'est un protocole qui va permettre de mélanger en fait les transactions dans le but de les rendre plus difficilement traçables, voire on pourrait considérer intraçables. Et donc le problème qu'il peut y avoir derrière ce genre d'outil, c'est que naturellement ça peut attirer des actions illicites, enfin en tout cas des transactions illicites, pas que, mais ça peut en attirer, et c'est notamment pour ça que Tornado avait été condamné. Donc on a les fondateurs qui ont été inculpés, donc ça c'est encore un autre sujet. Mais on a eu cette semaine une bonne nouvelle, puisque il y avait le smart contract, donc le code entre guillemets derrière Tornado Cash, qui avait été mis sur liste noire de l'OFAC et qui avait fait l'objet d'un gel, ce qui veut dire que tous les acteurs réguliers ne pouvaient plus du tout traiter avec des transactions qui venaient de Tornado Cash. En tout cas, on était vraiment sur quelque chose qui était très très restreint. Et en fait, ce qui a été défendu, c'est que le smart contract de Tornado Cash, il est dit immuable. Ça veut dire que personne ne peut le posséder. Une fois qu'il est déployé sur la blockchain, on ne peut pas le modifier. Et le champ d'autorité de l'OFAC, il s'arrête sur ce qu'on appelle les propriétés au sens juridique du terme. Et donc, en l'état, le smart contract là n'entre pas dans leur champ d'action. Et donc, la sanction de l'OFAC a dû être retirée. D'accord. Donc, on peut de nouveau... en tout cas, il y a moins de restrictions. Mais naturellement, les acteurs régulés doivent être extrêmement vigilants, parce que sur ces sujets de blanchiment d'argent, ils ont des obligations de résultats et non des obligations de moyens. Et donc, pas certain que ça va limiter. Mais en tout cas... D'un point de vue juridique, c'est une victoire pour les libertés.
Ouais, et sur l'annonce, le prix du Tornado a été multiplié par 11. Voilà, sur l'annonce. Ça va très vite. Bon, tout cet écosystème crypto qui est en train d'essayer de gagner ses lettres de noblesse, ça avance. Même l'AMF labellise certains acteurs. Bravo Claire, félicitations.
Merci.
À vous, à Deblock, que vous représentez, qui est devenue cette semaine, Deblock, la deuxième société crypto agréée PSAN, après Forge. Alors vous connaissez le sujet par cœur. L'agrément PSAN, l'AMF, ce label AMF, level 2, hein, deuxième niveau en termes d'exigence. À quoi il va servir? Qu'est-ce qu'il est supposé vous apporter? Pourquoi est-ce que vous courriez après? Maintenant que vous l'avez obtenu, vous pouvez peut-être nous le dire franchement.
Alors c'est un gage de sérieux, donc ça apporte plus de garanties à nos utilisateurs. Ça apporte aussi plus de fiabilité, même en termes d'image vis-à-vis de partenaires externes. C'est une grande fierté pour nous, parce que Thibault le sait aussi, mais c'est un agrément qui est pas facile à obtenir, qui met très longtemps à obtenir, beaucoup de discussions avec l'AMF. Et puis même à titre personnel, moi ça fait longtemps que je suis engagée sur ces sujets, et ma grande crainte c'était qu'il n'y ait que des grandes banques, que des acteurs traditionnels qui réussissent à avoir ce genre d'agrément. Donc c'est une grande fierté pour un acteur comme Deblock de parvenir à avoir ce sésame-là. Et puis ça ouvre la porte aussi à, j'espère, d'autres acteurs par la suite.
Oui, peut-être d'ailleurs Thibault, là c'est un Claire, Thibault zéro. Hein, là, je suis désolé de vous le dire, parce que pendant que Claire et Debloc obtiennent l'agrément PSAN, bah, Meria, qui est déjà enregistré PSAN hein, quand même, ils font partie des Happy Few, déjà voilà, le label AMF, mais le petit niveau supérieur, vous lui courez encore après. C'est très très exigeant l'agrément
PSAN. Oui, c'est très exigeant, et d'ailleurs, sous le même agrément, il y a différentes typologies de services qui vont être regardés, et si on prend Debloc et Meria, on est sur vraiment deux dossiers qui sont différents, donc oui. Qui vont pas être regardés de la même manière. Mais oui, c'est beaucoup plus exigeant, et d'ailleurs, on disait c'est le niveau 2, c'est presque, on passe du niveau 1 au niveau 50 hein, en termes d'exigence, que ce soit en termes de ressources humaines, de ressources financières, d'outils, etc. Enfin, c'est toute une culture qui doit se mettre en place. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler parce que ça arrive bientôt. Donc
On vous souhaite de l'obtenir effectivement. Ouais. Bah voilà, on vous suit. C'est les pros qui nous accompagnent chaque vendredi. Pro les cryptos à retrouver aussi sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Thibaut Boutrou et Meria qui nous accompagnent chaque semaine. Claire Balva et De Bloc également chaque vendredi. Merci à tous les deux. Bon week-end.
Merci beaucoup.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.